Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du jeudi. Du spectacle vivant à l'art contemporain, le politiquement correct gagnerait du terrain. Dans un essai paru aux presses universitaires de France, elle dénonce la moralisation de la culture et son nouvel académisme. La chercheuse Isabelle Barberis sera notre invitée à partir de 12h55. Mais d'abord, femme dans un monde d'hommes, incarnation d'un renouveau, dit-on, notre invitée revient sur son électro aujourd'hui. Membre du duo Scratch Massive aux côtés de Sébastien Chenu, leur dernier album composé à Los Angeles s'intitule Garden of Love. Maud Jeffrey évolue aussi depuis quelques années en solo sur le label Pan European Recordings. La productrice et performeuse est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard si vous le souhaitez sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Ce soir, je crois que beaucoup de gens ici, 250 000 je crois, ressentent un grand bonheur. La culture techno appartient à la culture d'aujourd'hui. Longtemps, elle avait été mal comprise, rejetée, écartée. Enfin, elle est pleinement reconnue et on sent ici un sentiment de joie, et pas seulement parmi les praticiens de la techno, mais aussi parmi le grand public. Vous vous souvenez, à La Nation, il y avait eu, avec Johnny, dans les années 60, un immense concert comparable qui a été en quelque sorte l'acte de fondation de la culture pop. Mais je crois pouvoir dire que, grâce notamment à l'association Technopole, à beaucoup de monde, à beaucoup de bonne volonté, ce soir, c'est un petit peu l'acte de fondation de la culture techno. Et j'ajouterai enfin, si vous le voulez bien, que le hasard du calendrier fait que le même jour, il y a la fête des monuments historiques, ce qui veut dire que la culture d'un pays forme un tout. C'est à la fois l'histoire, le passé, la mémoire, mais c'est aussi le présent et le futur.
L'acte de fondation, le ministre d'alors, Jack Lang, date de 1998, un peu plus tôt, dans une exposition à voir actuellement à Paris, Electro de Kraftwerk à Daft Punk à la Philharmonie, sur une bonne son de Laurent Garnier. Et au lendemain du Festival de musique et des cultures électro innocentes au Palais Brongniart, parrainé par Jean-Michel Jarre, on va revenir sur cette histoire collective, mais aussi très subjective, à travers un parcours, celui de notre invité Maud Jeffrey. Bonjour.
Bonjour.
L'électro, sa table donc aujourd'hui. Musique expérimentale d'avant-garde à sa naissance dans les années 50, de la création du GRM par l'inventeur de la musique concrète, Pierre Schaeffer, en 53, abrité par l'INA, ce GRM, à l'exposition en cours à la Philharmonie de Paris. On parle d'institutionnalisation d'un courant. Est-ce que c'est plutôt pour vous sa reconnaissance ?
Oui, clairement. Alors, je sais que certains peuvent y voir peut-être quelque chose de trop facile, que d'un coup les choses s'institutionnalisent comme ça, mais le parcours de cette musique, qui est quand même partie des rêves et des champs de la campagne pour accéder aux villes, puis s'étendre comme ça, et enfin arriver à une certaine reconnaissance, je trouve ça plutôt... pas mal.
C'est plutôt bien. Ouais, voilà, que l'électro s'attable, que l'électro s'expose, c'est pas pour vous une récupération d'un genre qui doit rester sauvage, libre.
Non, parce que ça n'empêche pas. C'est-à-dire que ce que ça empêche, le fait que ça s'institutionnalise comme ça, c'est peut-être aussi les mauvais fantasmes, c'est-à-dire les histoires de peur, de raccourcis, quand on met ça, on compare ça avec, je sais pas, quand ça concerne uniquement les histoires de drogue ou quoi. C'est-à-dire quand on regarde les premières choses qui apparaissaient dans les médias sur cette musique, ça ne concernait que les choses qu'on ne comprenait pas, donc les peurs, les journalistes ne parlent que de ça, qu'est-ce que ça va faire sur nos enfants, qu'est-ce que c'est que cette musique qui arrive, on n'y comprend rien. Donc là, au moins, c'est une façon de l'expliquer et de ôter ces fantasmes-là.
Et de la faire traverser, cette musique, de nouveaux courants, rencontrer d'autres formes d'art. On appelle aussi, Maud Jeffrey, institutionnalisation d'un genre, son simple décloisonnement peut-être, décloisonnement auquel vous participez avec d'autres de cette nouvelle scène française, en collaboration avec des musées comme le Louvre, le MUCEM ou encore le Musée des Arts de l'Asie de la ville de Paris. Vous avez collaboré avec ces institutions, vous avez aussi composé de la musique de film, cette ouverture de l'électro. à ces autres disciplines, à ces autres formes culturelles, elle s'est faite assez facilement.
Oui, elle s'est faite facilement parce que peut-être déjà j'ai toujours eu une grande passion pour les autres arts, c'est-à-dire le cinéma. Enfin, j'ai fait des études de cinéma. J'ai toujours aimé pas uniquement la musique. J'ai toujours trouvé intéressant d'amener ce mélange qui peut s'opérer entre la musique et d'autres arts. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et il y a 3 ou 4 ans, j'ai aussi fait un projet qui s'appelait 1994, qui est une vidéo de rave party qui était donc en 1994, dans lequel j'étais très 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 jeune et je me trouvais, et en fait il y a eu un réalisateur qui est devenu depuis réalisateur, un jeune homme qui était dans cette rave party, qui a filmé avec sa caméra Super 8, et du coup j'ai récupéré ces bandes là et j'en ai fait une sorte d'objet visuel et sonore il y a quelques années, il y a 3 ans, et c'est sorti sur Pan European Recordings.
L'électro a mis du temps avant d'être envisagée par des cinéastes aussi pour devenir musique de film. Est-ce qu'elle peut s'associer à toutes les histoires, à toute forme de narration pour vous aujourd'hui, ou est-ce qu'elle reste perçue comme une musique illustrative d'une thématique du futur? Est-ce qu'elle est toujours attachée à cette temporalité-là futuriste pour vous?
Ah non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est le point de vue d'un réalisateur qui doit aller vers son envie de travailler avec ce genre de musicien, parce que c'est quand même un genre de musicien, la musique électronique. C'est sûr que même si on peut aussi faire des envolées de violon avec un ordinateur, parce qu'on peut tout faire, ça n'est qu'un médium, la musique électronique, mais c'est souvent la volonté d'un réalisateur de faire une musique qui sera souvent plus minimaliste, par exemple, avec justement moins ce rapport à la musique hollywoodienne classique, ces grandes envolées de violon, tout ça, c'est souvent une esthétique, donc c'est pas forcément lié à quelque chose de futuriste.
C'est Étienne de Crécy qui racontait que même dans un film comme Star Wars, à l'époque, on n'osait pas encore aborder cette musique des machines, cette musique électronique, et qu'on sortait les clarinettes pour illustrer cette ambiance-là. Les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a cette reconnaissance aussi à travers l'écran, à travers le cinéma. Et il n'y a pas que la musique et les temps qui ont changé. Il y a aussi la manière dont on en parle. Je vous propose d'écouter ici un échange entre Pierre Schaeffer avec Jean Toscane autour de la différence de fabrication du son avec des instruments de musique classique et des instruments électroniques tels que les ondes Martello.
La musique, vous me l'accordez, est à base de son. Bon, indépendamment des questions de forme, le renouvellement de la musique ne saurait provenir que d'un renouvellement de la matière sonore. Tout revient donc à une question de fabrication du son. Comment fabriquez-vous un son, monsieur Toscane?
Eh bien, en attaquant un corps sonore, en frappant un tambour, en soufflant dans une hanche, en faisant vibrer une corde à l'aide d'un archer...
Réponse classique, oui, mais limitée. C'est, si vous le voulez, la fabrication artisanale du son, ce que nous appelons le son direct. Alors, je vous demande quel est le corps sonore dans une onde Martenot.
Ah, ma foi, j'avoue que je vois pas très bien.
Ben, il n'y a plus de corps sonore. Un circuit électrique en tient lieu, n'est-ce pas? Ce circuit oscille et ne devient sonore que raccordé à un haut-parleur. Ce n'est pas le haut-parleur qui oscille de lui-même, n'est-ce pas, comme une hanche ou comme un tuyau d'orgue. Oui. Ce sont les électrons qui oscillent silencieusement en premier lieu.
De sorte que les ondes Martenot font partie de cet ensemble d'instruments nouveaux que les Allemands appellent, je crois, l'électronische Musik.
L'électronische Musik. Oui.
Vous parliez, Jeffrey, de ce genre de musique avec ses codes, on l'entend bien. On pourrait aussi parler de ce genre de musicien ou de producteur de musique électronique avec vos amis aussi. Vous discutez corps sonore, son blanc, fréquence, fragments.
Bah, il y a autant de musiciens électroniques d'abord de la musique électronique. Il y a ceux qui défendent vraiment plus des synthétiseurs analogiques. Il y a ceux qui vont travailler davantage avec des tout nouveaux instruments, donc des plugins qui sont assez dématérialisés. Donc, au sein même de la musique électronique, il y a aussi plein de sortes d'approches de la musique électronique. Donc oui, on en parle pas mal parce que la matière ça va donner vraiment des sons, des styles différents. Oui.
Et vous, vous retournez parfois au fondement de ces musiques électroniques ou électro-acoustiques. Il y a des choses encore à y chercher?
Oui, bien sûr, il y a toujours des... Bah, c'était une époque de recherche, donc à partir de là... Oui, s'y plonger, ça reste toujours intéressant et on connaît souvent mal parce que c'est lointain. Et puis aujourd'hui, il y a encore tellement de choses à faire justement dans les recherches au niveau du son et tout ça. Donc
il y a encore beaucoup à expérimenter.
Ouais.
Depuis les années 70, l'électro s'est aussi démocratisé avec l'apparition des premiers DJ, des concerts performances comme celui de Jean-Michel Jarre en 79, place de la Concorde comme la Technoparade aussi à la fin des années 90 dont parlait Jack Lang. Là, ça a été vraiment la grande ouverture. Ça a commencé aussi avec Kraftwerk en Allemagne, aux nouvelles scènes américaines, Chicago, Détroit, New York, qui vont exporter la techno et la house en Europe. Vous regardez ça de très loin, très très loin, ces années 80 émergentes.
Oui, moi c'est sûr que Jean-Michel Jarre par exemple, ça c'est vraiment des souvenirs assez forts d'enfance. Mais moi j'ai regardé ça de très très loin. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, donc ce que j'avais comme rapport à cette musique, c'était peut-être leur discothèque. Avec même des gens comme Philippe Glass, tous les Schaeffer, etc. Ils avaient tout ça, donc j'avais ça à la maison, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce genre de choses, donc c'était lointain.
Ouais, c'était ça, il n'y avait pas Internet, et ça, c'est quelque chose qui a aussi beaucoup changé, à la fois dans la manière dont la musique se crée aujourd'hui, dans la manière dont la musique s'écoute, et dans la manière dont la musique circule. Vous vous êtes du coup formé l'oreille à travers cette discothèque de vos parents, cette culture-là, elle s'acquérait aussi chez les disquaires, la nuit, dans les clubs. Comment vous avez rencontré cette musique?
Il y a deux étapes. Il y a la première donc chez mes parents et puis la deuxième c'est vraiment l'atterrissage dans une rave party où on entend une musique du futur, parce que vraiment c'est cette sensation que ça génère immédiatement. C'est une musique qu'on ne comprend pas. On ne sait absolument pas ce que le DJ fait. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une musique qui ne s'arrête jamais. Donc est-ce que le DJ, comment fait-il? On ne sait pas, qui cale des disques vinyles, etc. C'était vraiment très mystérieux la première fois que j'ai entendu cette musique-là dans une rave party, et personne n'était là pour nous expliquer. Il y avait effectivement donc pas Internet, il y avait pas d'explication du tout. Donc c'était le grand mystère qui ornait tout ça. Et ensuite essayer d'aller trouver soi-même dans des magasins de disques, de comprendre un petit peu les différents styles, de comprendre ce qui se passait, comment faisait le DJ, etc. Ça prenait beaucoup de temps. Pas comme aujourd'hui, je pense, où c'est certainement beaucoup plus rapide de comprendre un peu comment fonctionne tout ça.
Et la première rave party pour vous, justement, c'est le début des années 90, c'est 94, comme l'album l'évoque le titre de cet album, le vôtre, sorti en solo en 2015, ce coup d'œil dans le rétroviseur.
Oui, c'est ça, c'est 1994, où il y avait une effervescence en France. Donc c'était l'arrivée de cette musique-là par l'Angleterre, la Belgique, et il y avait une parenthèse un peu enchantée, parce que après, bien sûr, les autorités ont arrêté tout ça, et la musique électronique est partie dans les clubs. Donc est rentré dans les villes, est rentré dans quelque chose d'un peu plus surveillé quelque part. Et donc ça a duré assez peu de temps finalement, ces rave parties.
Là, on est dans les années 90. C'est la naissance de notre électro à nous, derrière l'appellation aussi French Touch, et des labels comme Headbanger de Pedro Winter, avec la formation des Daft Punk, puis de R, puis l'événement aussi Super Disco d'Étienne de Crécy. Daft Punk, on y revient, 1995.
Daft Punk, les punks timbrés, les nouvelles coqueluches techno de l'Angleterre viennent de France et cassent la baraque. Signés sur un petit label indépendant écossais, leurs premiers singles ont été acclamés par la critique internationale, qualifiés de « New Wave of the New Wave » par une presse anglaise surexcitée. Attention au duo parisien emblématique de l'underground techno à l'heure du village global.
Nous, on a reçu des fax de du Danemark, de Suède, d'Espagne, du Japon, de New York, alors qu'on a vendu 15 000 disques. Donc c'est très amusant, mais ça montre vraiment que ça peut... Il y a à la fois un public et à la fois des gens qui sont intéressés par cette musique partout. Et qu'on peut vraiment atteindre en faisant des trucs dans sa chambre, atteindre des gens à l'autre bout de la terre. Quoi.
Maintenant, on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous, il faut que tout le monde se lance là-dedans, parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir
des barrages,
des produits finis de merde qui nous cassent les couilles, mais pas pour longtemps.
La production des Daft Punk est riche et complexe, répartie entre les remixes et les morceaux fabriqués sous différents pseudos pour mieux brouiller les pistes. Une musique qui peut aller du cool presque jazzy à la house très funky jusqu'à la techno la plus violente à la limite du décervelage. Leurs lives sont réputés pour leur vigueur affolante qui pourrait vous faire fusionner avec une poutre. Thomas Bangalter vient de lancer rouler son propre mini-label, petit tirage mais distribution mondiale. Attention, les jeunes loups français de la techno sont redoutables.
À partir du moment où on avait donc un petit home studio, bon, le premier disque c'est moi qui l'ai fait, donc j'ai enregistré les morceaux dans mon studio, dans notre studio. Après je les ai fait graver à Londres, dans des bons studios de gravure, je les ai fait presser en France, j'ai fait imprimer des pochettes et je les vends à des distributeurs en France qui après les dispatchent à des distributeurs à l'étranger, qui les dispatchent à des distributeurs et après on peut retrouver des disques dans le monde entier.
Préparez-vous à la très prochaine déferlante du groove irrésistible des Daft Punk. S'ils restent indépendants et jusqu'au boutiste, ces nouveaux punks seront sans doute finalement beaucoup moins timbrés que leurs prédécesseurs.
Là, c'est la décennie folle, hein, quand même.
Ouais. Ouais, je me souviens même de la première fois que j'ai écouté effectivement ce morceau des Daft Punk. Ils sont arrivés comme un raz-de-marée assez féroce sur tout ça. Ils étaient très forts, ouais, bien sûr.
Maud Jeffrey, 1994. Donc, cet album sorti en 2015, qui regarde dans le rétroviseur sur ces années 90, ces belles années. C'est la bande-son imaginaire d'une rave sur une plage bretonne entre dunes et bunkers en plein jour. Les images sont un peu datées. Vous évoquiez la Super 8 de votre camarade, un peu passée. Les souvenirs de ces années-là, ceux de vos débuts, cette parenthèse enchantée, vous gardez pour cette décennie aussi une forme de nostalgie?
Non, pas de la nostalgie parce que les choses ont avancé et que je j'y retournerai pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas de nostalgie particulièrement pour ce moment, mais plutôt pour une espèce d'innocence, un moment enchanté comme ça qu'on pouvait retrouver dans ces fêtes parce que c'était une totale nouveauté, découverte et personne ne savait trop où ça allait et ce que c'était. Et on naviguait un peu à vue comme ça. Et voilà, donc j'ai pas vraiment de nostalgie parce que les choses peuvent pas rester comme ça. Mais en tout cas, c'était des moments d'éveil assez puissants. Oui.
On a parlé des places fortes de l'électro dans ces années-là. Londres, Détroit, New York, Chicago. Et vous êtes originaire de Saint-Nazaire. Ça voulait dire quelque chose aussi? Il y avait une connexion qui est née de là-bas.
Oui, un petit peu, ouais. Bah, ce côté très industriel, effectivement. Alors, est-ce que ça a pu jouer? Je ne sais pas. Mais mes goûts musicaux vont davantage vers une musique plutôt froide et de ce type-là, donc qui va assez bien avec l'architecture de Saint-Nazaire. Et peut-être, je suis vraiment moins de ce côté du côté house, show et. Donc oui, ça a pu jouer.
La froideur des sons, est-ce qu'elle exclut pour autant l'émotion? Je vous propose d'écouter les mots d'un des pionniers fondateurs de la musique électro-techno, l'américain de Détroit, Derrick May.
Machinery, you know, the idea of machines and electronics.
Des machines, l'idée des machines, de l'électronique, est évidente, surtout venant de Détroit. Ici, l'industrie est le centre d'intérêt principal des gens. Tout le monde a un parent qui travaille dans l'industrie. Ça se ressent indirectement. Ce n'est pas que positif, c'est aussi une influence très froide, sans émotion. La machine n'éprouve ni amour ni sentiment. Parfois, ceux qui travaillent pour ces machines perdent tout sentiment, car ils travaillent des heures complètement absorbés par quelque chose qui ne leur donne rien en retour.
We tended to find the idea of making music subconsciously.
on a été amené à faire cette musique inconsciemment, car tout est inconscient. Ça n'a jamais été autre chose qu'une pensée inconsciente, une émotion inconsciente. On a pris l'idée des machines, pas forcément le synthé, mais le son du synthé, et on a créé nos propres sons. Et tous ces sons, inconsciemment, venaient de l'univers de l'industrie, de la mécanique, des machines, de l'électronique. Pourquoi ? Parce qu'on vient de Détroit. Pourquoi ? Parce qu'on vient de Détroit ? Parce que c'est là que vivent nos familles et nos amis. C'est là qu'ils travaillent et créent. Cet environnement nous a créés. Et nous, à notre tour, socialement et inconsciemment, on a créé cette musique.
Et votre environnement aussi, vous nous le disiez, Maud Jeffrey vous a forgé. Est-ce que pour autant vous avez perdu vos émotions ?
Non, pas du tout. Alors je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'il dit, mais c'est vrai que ce passage-là où la machine ne donne rien en retour, je suis pas du tout d'accord. Au contraire, quand il y a des moments où il y a de la magie, où on sent un apprivoisement de quelque chose, et à un moment, il y a des choses qui jaillissent de la machine qui sont magnifiques. Donc je suis pas trop d'accord avec cette partie-là.
On peut faire un petit cas pratique. Si on glisse sous votre voix Goodbye Yesterday, extrait de votre dernier album solo, Polar, sorti en 2017, là, quelle émotion vous laissez filer et quelle émotion vous rattrapez avec ces notes ?
Ah, c'est toujours dur d'expliquer les morceaux, je trouve. J'espère que les morceaux parlent d'eux-mêmes, ce qui est beaucoup plus sensé et sensible en tout cas, mais là, il y a... il y a un au revoir, mais qui n'est pas forcément triste parce qu'il y a une grosse lueur d'espoir, je trouve, j'espère que ça transcende en tout cas, qu'on l'entend.
Alors laissons filer le au revoir. Projet-là, Polar, cette rêverie polaire que vous avez imaginée, il est parti d'une commande du Louvre, Maud Jeffrey. C'est un documentaire musical que vous avez tourné au nord de la Finlande, en Laponie, et dont vous avez rapporté tout plein de musique, tout plein de titres, et vous en avez fait aussi un album mixé, remixé, continué à expérimenter avec cet ancrage dans les territoires auquel on ne peut pas échapper à travers cet album et ses titres. La musique reste une performance à vos yeux, Maud Jeffrey ?
La musique reste... Non, alors déjà, la musique reste quelque chose de, de très intérieur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher des choses qui sont difficiles à exprimer, parce que c'est un médium formidable, je trouve, pour l'expression. Donc c'est déjà quelque chose de très intérieur qu'il faut explorer et rendre concret par le biais de la musique. Donc après, il y a des choses qui peuvent, par exemple, s'y prêter, comme ce voyage qu'on a fait en Finlande. Je suis partie avec un réalisateur, en fait, qui s'appelle Jamie Harley. On est partis tous les deux. On est partis, lui filmait et moi je faisais la musique. Et c'est sûr que de se retrouver au nord de la Finlande, en Laponie, dans un endroit où il fait nuit 22 heures sur 24 pendant un certain temps, et il fait moins 20 degrés, enfin des conditions assez extrêmes, d'intérioriser tout ça et de l'ajouter à soi quelque part, ça crée des feelings et des choses assez fortes. Donc c'était un petit peu la volonté d'une expérimentation, oui.
De Sauvage à Orchestré, de 94 à aujourd'hui, vous l'évoquiez, la fête a un peu perdu de son charme. Mais tout se transforme, rien ne se perd, dit-on, et ça marche aussi pour l'électro, partout où elle s'établit. Elle renaît finalement sous forme d'initiatives éphémères, différentes, renouvelées par communauté. Est-ce que vous avez, en dehors de votre duo de Scratch Massif, que vous délaissez de temps en temps pour votre pratique en solitaire, mais vous recomposez d'autres collaborations sur cet album Polar? Il y a notamment Flavien Berger qui prête sa voix, qui vous accompagne sur le titre In Your Haze. Vous aimez, même si cette pratique est solitaire, collaborer, faire ça, faire des tentatives, des expériences avec d'autres, partager aussi ces sensations?
J'aime bien collaborer. J'aime bien d'abord établir le tapis des choses et ensuite collaborer. Je trouve ça plus facile comme ça. C'est-à-dire, j'aime bien inviter quelqu'un dans mon univers, entre guillemets, mais j'aime bien aussi que les choses soient un petit peu basées par avance. Je trouve ça plus intéressant peut-être, et plus confort aussi pour la personne invitée.
Et aller dans l'univers des autres, c'est ce que vous avez fait avec le projet Philippe Glass, et on s'arrêtera avec lui, partagé avec la harpiste néerlandaise Lavinia Meyer, Gentleman's Honor. C'est l'union assez improbable entre le synthé et la harpe. C'était la deuxième session du projet Variation, lancé par Sourde Oreille avec la compagnie des Indes. Comment on réinterprète une musique répétitive et minimaliste comme celle de Philippe Glass, parce que c'est son répertoire qu'on vous a demandé de vous approprier, hein,
ouais,
ou de revisiter?
Il fallait vraiment essayer de pas trop réfléchir, je pense, parce que sinon c'est assez tétanisant. Donc l'idée était de se lancer. Enfin, moi j'ai choisi deux œuvres que j'aime énormément, qui sont The Photographer et Einstein on the Beach, en essayant là-dedans d'y trouver un chemin, de dresser 30 minutes d'histoire en partant de ces œuvres-là. Mais comme il s'agit d'une réinterprétation assez libre, il fallait aussi s'en détacher et intégrer aussi une harpe. Donc c'était un travail assez long, mais très intéressant.
Merci beaucoup à vous, Maud Jeffrey, d'être venue vous attabler ici avec votre électro pour la grande table. Merci.
Merci à vous.